Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Il y a Hōgen Monogatari, il y a Heiji Monogatari, il y a Heike Monogatari, qui est le plus important. Et c'est une œuvre monumentale. Alors, le Heike Monogatari. Heike Monogatari. Heike, c'est la maison des Taira. N'est-ce pas? Taira, ça se lit He. Ke, je vous ai dit, lorsque ça désigne une famille, normalement c'est Ke. Et Monogatari. L'histoire de la famille des Taira. En 12 volumes, datant à peu près du milieu de l'époque de Kamakura. C'est traduit, comme tout le reste, par René Siffert, que nous aurons la joie de connaître, j'espère, l'année prochaine, une fois, il demandera de venir faire une ou plusieurs conférences ici, ça, pour nous dire comment on traduit une œuvre littéraire. En 12 volumes, en 12 fascicules, si vous voulez. Et ça aussi, n'est-ce pas, le début, les deux premières phrases sont connues par chaque écolier japonais. Et ça commence aussi par une allusion à l'impermanence bouddhique, tout comme le Rōjōki. Le fameux Mujo, parce que cette période, les intellectuels de cette époque sont imprégnés de ce Mujo, sauf bien sûr les shintoïstes purs qui parlent de la pérennité de la maison impériale, Mujo, l'impermanence des choses. Et dans le bouddhisme, il y a une philosophie du Mujo. Kan, ça veut dire voir, la vue, la contemplation de l'impermanence. On peut même traduire la philosophie de l'impermanence. Kan, c'est le voir clairement, nettement, distinctement. Et seulement... Et ça, on le dit souvent, les Japonais eux-mêmes le disent et le redisent, ce Mujo Kan au Japon, puisque c'est une traduction du sanskrit, c'est pas ce Kan est devenu un autre Kan au Japon, ce Kan-là, c'est où ça se prononce également Kan, seulement c'est le sentiment. Le japonais, c'est un sentimental, en quelque sorte. De toute façon, c'est ce qu'il nous dit lui-même, n'est-ce pas? Donc, le sentiment de l'impermanence, et c'est exactement ce que le bouddhisme ne devrait pas être. La reconnaissance de l'impermanence devrait nous permettre de prendre un certain recul devant les choses, devrait nous délivrer des liens. On a vu ça avec Nishida hier, avant-hier. Mais au moins pendant le Moyen-Âge et par la suite, cette impermanence a inspiré une sorte de tristesse profonde, de tristesse, de solitude, de sentiment de solitude, qui a fait naître aussi un nouvel idéal esthétique. Et cet idéal esthétique est en rapport avec un terme que je vous ai donné il y a 15 jours, ou la semaine dernière, le... C'est ça, Jugend. Hein? Ce joli caractère. Jugend. Essayez même de prononcer Jugend. Jugend. Mais seulement entre deux voyelles. Alors, le Heike Mononatari commence par cette phrase. Gion shōja no kane no koe, shōngyō mujō no hibiki ari. Le son de la cloche du monastère Jetavana. C'est un monastère en Inde qui était un don du riche Sudatta à la communauté du Bouddha. Alors le son de la cloche du monastère Jetavana, J-E-T-A-V-A-N-A, Jetavana, le son de la cloche du monastère Jetavana a la résonance de l'impermanence des choses. Et comme je vous ai donné une feuille comme ça, avec l'alphabet, si l'on peut dire, le Iroha Uta, vous avez ce premier vers là, Shongyo Mujo. Tout Shongyo, toutes les constructions sont impermanentes. Et c'est ce qui est rendu par Irowa Nyoe do Chirinuruo. Voilà. Alors, c'est une sorte de geste, n'est-ce pas? Cet geste de Heike, Heike Monogatari, raconte d'abord l'essor, la gloire des Heike, et puis leur perte jusqu'à leur disparition. Il y a beaucoup d'épisodes qui ont donné lieu à des pièces de théâtre de No et de Kabuki. Et au début, ces œuvres, c'est-à-dire notamment le Heike, mais aussi d'autres, mais au milieu c'était toujours le Heike Mononatari, étaient chantées par des artistes aveugles en robe de moine, sans qu'ils soient moines, mais on voulait ressembler à un moine, à des chanteurs aveugles, et qui s'accompagnaient eux-mêmes par un luth et un biwa. Et ce biwa, et ces chanteurs s'appelaient biwa hoshi. Biwa, c'est aussi un fruit qu'on peut manger, hein, biwa. Alors, ce luth-là, donc, ça s'écrit comme ça, voilà. Biwa. Et puis les biwa hoshi. Hoshi. C'est curieux, il y a au Japon cette longue tradition des musiciens aveugles. Et souvent ce sont les meilleurs. Mais chez nous aussi, ça, je vous rappelle l'existence de Valsha. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ici à la cathédrale il y a encore quelques années. Ça, il faudrait entendre une fois ce que c'est que le biwa. Peut-être la semaine prochaine, si j'y pense, je vous apporte une petite cassette avec ambigua. Cette récitation du Heike Mononatari, accompagnée par le biwa, et dans un rythme et une mélodie très typique. Toujours ces cartes, s'appelle Heikyoku. 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 C'est le genre, n'est-ce pas, de chant, récitation du Heike Mononatari accompagné par le biwa. Et ces Heikyoku sont un élément constitutifs, un élément, n'est-ce pas, de la musique et du chant et du théâtre no. Il y a plusieurs petits courants qui convergent pour constituer l'art du no. Mais il y a une partie Heikyoku. Au milieu du XVe siècle, il y avait déjà plusieurs centaines d'artistes spécialisés dans le genre Heikyoku. Mais ils sont extrêmement rares de nos jours. Ils sont devenus trésors nationaux.